Ça va? Alors, je vous posais la question, ça a été la semaine? Oui? Ok. Alors, il y a des semaines avec et des semaines parfois plus difficiles que d'autres. En tout cas, la mienne était bonne. Ouais, c'était une bonne semaine, j'ai pas perdu mon temps et je suis assez satisfait. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Iran a attaqué Israël cette nuit. Et c'est toujours des théâtres particuliers. Nous avons un cœur pour Israël. Mais je dois quand même préciser une chose, c'est que, parce que parfois, même dans le monde chrétien, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de partis pris. Certains pensent que si nous sommes pour Israël, nous sommes contre les autres. Contre les Palestiniens, contre les Iraniens. Vous savez qu'actuellement, la plus grosse action de Dieu dans le monde se trouve en Iran. Vous voyez les paradoxes. Et souvent, ce qu'on a remarqué dans l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité, c'est généralement, lorsqu'il y a un grand réveil quelque part, c'est toujours un signe, parfois, de ce qui arrive après. Tout le temps. On a vu ça, on a remarqué ça. Et il n'est pas étrange que ce que Dieu, dans sa grâce, fait actuellement en Iran, où par milliers, des dizaines de milliers, il y a des conversions incroyables, des choses extraordinaires, mais parallèlement à cela, il y a souvent un déchaînement démoniaque. Et ce qui s'est passé cette nuit rentre aussi dans des signes prophétiques dans lesquels nous sommes. Si vous lisez Ézéchiel, chapitre 38, chapitre 39, on ne va pas le faire ce matin, ce n'est pas le but du message, c'est simplement une introduction. C'est le quart d'heure de l'info. Voilà. Mais vous lirez ça, Ézéchiel 38, 39, et vous allez voir comment l'Iran, dans les derniers temps, jouera un rôle important en Israël, pour Israël et contre Israël surtout, surtout contre Israël, et viendra se heurter en Israël et prendront un jugement contre eux-mêmes. Donc c'est très intéressant. Quand nous lisions cela il y a 30 ou 40 ans, on n'avait pas la même lecture. On savait que ça allait arriver. Et là, on voit que ça arrive. En seulement 40 ans. Donc c'est très intéressant. Et cela doit vraiment nous préparer, nous prédisposer au temps dans lequel nous sommes. Il est évident que pour nous, ici, en Europe, on voit ça, on a tendance à voir ça de loin, parce qu'on dit, ça nous concerne, puis ça ne nous concerne pas vraiment. Mais je vous assure, ça nous concerne. Et en particulier l'Église. Parce que l'Église, qu'elle soit en Europe, qu'elle soit en Afrique, en Asie, elle aura la même destinée. Vous me suivez, là? Parce qu'on fait partie, nous, d'un peuple qui est sur l'ensemble de la surface de la Terre. C'est-à-dire que quand l'Église est touchée à un endroit, nous sommes touchés. Quand l'Église se réjouit à un endroit, nous nous réjouissons avec. Et au-delà des barrières culturelles, au-delà des continents. Donc, ce qui est en train de se passer nous concerne aussi. Et nous devons prier, prier et prier encore. Ok? Ok. Vous réalisez tout ça ou pas? Pas vraiment. Un petit peu quand même. Ouais, un petit peu, hein, d'accord. Ouais. Quelqu'un dit les guerres qui sont loin nous concernent moins. Et puis plus elles se rapprochent, plus forcément on se sent concerné. Mais on se sent surtout menacé. Donc puissions-nous, nous qui avons une destinée et une espérance au-delà de ce qui se passe sur la terre, nous devons néanmoins nous préparer aux choses. Amen. On peut se réjouir d'un côté, parce qu'on sait qu'on est vraiment dans les temps messianiques, et puis en même temps, si on n'a pas nos yeux vraiment fixés sur le Seigneur, ça peut nous faire peur. D'accord ? Mais j'espère que vous êtes pas, vous ne vivez pas dans la peur ou dans la crainte. Ayez vos regards sur Jésus, qui lui reste au contrôle de tout. Parce que c'est ça aussi notre paix. Nous savons qu'au-delà de ce qui peut se passer et ce qui se passe, Jésus a le contrôle. Il est le souverain maître. Rien, absolument rien nous échappe, lui échappe concernant la terre, mais aussi sur notre vie. C'est très rassurant. Voilà. Dites à votre voisin, c'est très rassurant. Bon, maintenant que tout le monde est rassuré, on veut ouvrir la parole de Dieu. Tout récemment, j'ai été amené à publier un livre sur ce que le Christ a accompli pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais partir sur ce message pour ceux qui l'ont jamais entendu. Ceux qui l'ont entendu, ce sera une bonne révision. Et puis ceux qui veulent vraiment, alors vraiment le garder, vous pourrez encore vous procurer le livre après. C'est possible. Depuis pas mal d'années, il m'a semblé bon de remettre au cœur de l'Église la fête de Pâques que nous avons fêtée il y a 2 semaines. Et je constatais à l'époque, ça remonte à une 20aine d'années maintenant, je trouvais que dans notre communauté, qui était celle de Chenôve à l'époque, on vivait un problème entre ce que nous pensions croire et finalement ce que nous fêtions à Pâques. Parce qu'à l'époque, les gens de la communauté profitaient de Pâques pour partir à la montagne, à la neige, en famille, ils allaient se promener. Ils faisaient beaucoup de choses sans fêter Pâques. Et ça me posait un problème pour moi à l'époque, un problème personnel, bien que nous ayons toujours au sein de la famille fêté Pâques. Mais au niveau de la communauté, ça ne marchait pas. Et je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire et quelle est ma part pour ramener cette fête au cœur des chrétiens et de l'Église. Donc nous avons institué à l'époque un jeûne et prière la semaine qui précédait Pâques. Au début, c'était vraiment très timide. Nous étions quelques-uns, pas beaucoup. Et après, avec le temps, on est passé à quelques dizaines, et puis ensuite, ça s'est développé. Et puis, on ouvrait le vendredi soir, c'est-à-dire le vendredi saint, un séminaire pour vraiment se rappeler ce que Jésus avait fait pour nous. Et puis, tout doucement, on a demandé aux membres de la communauté, partez le week-end, toute l'année, mais pas à Pâques. Restez pour fêter Pâques. Et j'ai dû expliquer, enseigner que cette fête-là est une fête instituée par Dieu et c'est une fête éternelle. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus de toutes les autres fêtes. Et puis j'ai fouillé un petit peu comment le peuple d'Israël fêtait Pâques. Et comment ils fêtent Pâques encore aujourd'hui? Pour trouver de l'inspiration et voir dans le Nouveau Testament comment on pouvait associer les choses. Et j'ai découvert quelque chose de très intéressant. La famille juive qui fête Pâques donc prépare déjà un bon repas qu'on appelle le Seder. Et ce repas, il y a toutes sortes de plats, d'ingrédients qui rappellent pour Israël leur sortie d'Égypte, au moment où ils sont sortis de l'esclavage et ils sont allés sur le chemin de la liberté. Et puis, sur cette table-là, se trouvent 5 coupes de vin, et chaque coupe, les 4 premières coupes, représente chaque étape de la sortie d'Égypte. Et puis, pendant le repas, donc, ils prennent ces coupes, rappelant et priant et rendant grâce à Dieu de ce qu'ils sont plus esclaves, mais que Dieu a suscité un grand libérateur à travers Moïse. Et ils ont pu sortir et trouver la liberté et aller vers le pays de la promesse. Et c'est vraiment un temps fort, un temps de fête. Et puis il y a cette cinquième coupe qui, elle, on l'appelle la coupe du Messie. C'est-à-dire, personne ne la boit, elle reste sur la table tout le long du repas en aspirant, en priant et en réclamant que le Messie vienne. Et c'est de cette manière, je vous le fais très court, hein, vous avez compris, mais ça se passe à peu près comme ça dans les familles juives. Et puis en méditant dessus, je dis, mais que pourrait représenter pour nous notre véritable Pâque, Christ, notre Pâque? Qu'a-t-il fait réellement? Et de quelle manière nous devons fêter ce qu'il a fait? Sachant les commentaires où les théologiens supposent qu'au moment où Jésus a pris la scène avec ses disciples, il s'agissait, donc il a fêté la... il préparait la Pâque, sa Pâque. Mais ils ont pris le pain et le vin, et c'est probablement cette coupe-là, la coupe du Messie, dont Jésus fait référence au moment du repas, de la scène. Alors, qu'est-ce que nous-mêmes mettons dans le tout accompli? Nous croyons que Jésus a tout accompli, mais qu'est-ce qu'il a accompli? Voyez, on peut faire les choses, ou on peut avoir certaines pratiques religieuses ou spirituelles, même dans nos églises, et puis on ne sait pas vraiment ce que cela signifie. Et on aurait le temps et le courage de se poser la question ce matin, dire, qu'est-ce que vous mettez vous-même dans le tout accompli? Nous serions peut-être surpris. Surpris de ce qu'on ne sait pas. Surpris de ce qu'on ne connaît pas dans le tout accompli. Nous pensons, généralement, les chrétiens pensent qu'il s'agit seulement que le sang de Jésus a coulé, a été versé pour le pardon de nos péchés. Ça, je pense, si vous fréquentez cette communauté depuis un bout de temps, ça, je pense que vous savez ça. Est-ce que vous savez ça? Le sang de Jésus purifie vos péchés. Ouais. Okay. C'est ce qui fait que vous êtes né de nouveau et que maintenant vous êtes sauvé. Ça va? Ou c'est moi qui suis trop solennel ce matin? Ou je suis en train de vous endormir? Non? Ça va? Ou alors vous êtes très concentré? Vous êtes très concentré. D'accord, ok. Ok. Tout le monde? Oui, ok. Donc, ce que je vous propose, d'accord, c'est qu'on regarde ensemble ce que Jésus a fait dans le tout accompli. D'accord? Parce que c'est en ayant cette connaissance que vous pourrez mettre votre foi en action et être au bénéfice du tout accompli. Ce qui est terrible, c'est de ne pas savoir, de ne pas connaître, parce que finalement, on ne peut pas croire dans ce qu'on ne connaît pas. Donc, il faut de la connaissance afin que nous puissions nous approprier par la foi ce qu'il a fait et que nous soyons au bénéfice de ça. Parce que, comme pour vous et pour moi, il sera fait selon notre foi. Ça va, toujours? Ok. Alors, j'ai réalisé que les cinq coupes en Israël, selon la tradition juive, nous retrouvions ces cinq coupes dans la vie de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a versé son sang cinq fois, pas une seule fois. Cinq fois le sang de Jésus a coulé, et chaque fois, cela signifie quelque chose, de la même manière que chaque coupe, selon la tradition juive, signifie quelque chose. D'accord? Alors, À quel moment le sang de Jésus a coulé pour la première fois? À Gethsémané, dans le jardin de Gethsémané. C'est la nuit où il va être arrêté. Il se retrouve là avec ses disciples et Jésus prend un temps de prière. Il emmène trois de ses plus proches disciples à part et Jésus va prier. Il va prier d'une manière intensive. Il va prier avec beaucoup de persévérance. Il va prier parce qu'il sait qu'il a besoin d'être fortifié, parce que dans les heures qui vont suivre, il va être arrêté et emmené. Et au moment où il se retire avec ses trois disciples, il se met à quelques pas en écart, à l'écart et il commence à prier, à prier, à prier. Vous connaissez la prière de Jésus à ce moment-là? Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est revenu vers ses disciples qui, malheureusement, s'étaient endormis, eux, n'avaient pas compris l'enjeu spirituel. Jésus repart et il va encore prier. Il va encore revenir. Les disciples sont encore endormis. Il va repartir. Et nous est dit qu'à ce moment-là, c'était tellement fort, tellement intensif, que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Est-ce que vous avez besoin qu'on prenne tous les textes bibliques ou vous me faites confiance, vous réécouterez le message, vous chercherez les textes, d'accord? Ou vous prendrez le livre et puis vous aurez tous les textes aussi, d'accord? Mais je vous assure qu'ils sont bien dedans, d'accord? C'est simplement parce que il n'y a plus d'horloge, au fait. Vous avez arrêté le temps. Je vais quand même prendre... C'est jusqu'à quelle heure? Encore 30 minutes. Ok, d'accord. Okay. Et il nous est dit, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et là, le sang de Jésus a coulé à Gethsémané. Dans quel but pour nous? Qu'est-ce que cela nous apporte à nous? Et quel combat a-t-il mené pour que nous soyons au bénéfice de cela? L'enjeu de Gethsémané, c'était, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire que Jésus a souffert en son corps, son sang a coulé, pour que lui-même puisse faire la volonté de son Père. Mais s'il y a une chose que nous devons nous emparer ce matin par rapport à Gethsémané, c'est que par la victoire qu'il a obtenue, parce qu'il est sorti victorieux de Gethsémané, victorieux, pas pour échapper à la main des religieux et des Romains, mais victorieux dans le sens où il a pu surmonter pour continuer à faire la volonté de son Père. La volonté de son Père, c'était que Jésus aille à la croix. Jésus le savait. Mais dans sa chair, tout en étant fils de Dieu, il était fils de l'homme, et dans sa chair, il était très difficile d'accepter d'aller à la croix. Mais il a mené le combat afin d'obéir et de faire la volonté du Père. Quel est notre premier problème à nous? Quel est notre premier problème dans notre vie? Si ce n'est de faire la volonté du Père. L'esprit est bien disposé. Nous avons envie. Mais la chair est faible, bien souvent. Combien de fois avons-nous dû avoir recours à la repentance pour dire, Seigneur, j'aurais tellement aimé faire ta volonté, et je n'ai pas eu la force, je n'ai pas eu le courage, je n'ai pas eu l'audace, je n'ai pas eu, qu'importe, les choses qui nous ont empêchés, mais nous avons été comme empêchés de faire la volonté de Dieu. Et lorsque nous prenons de l'âge, et lorsque les années défilent en tant que chrétiens, combien sont ceux qui aussi souvent peuvent être dans le regret et dire « Mince, est-ce que j'ai fait vraiment la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Qu'est-ce qui m'a empêché d'obéir totalement, pleinement au Seigneur ?» C'est de cette victoire-là que Jésus nous parle ce matin, que son sang nous parle. C'est-à-dire que de nous-mêmes, dans notre chair, c'est impossible, je vais vous rassurer, hein, c'est impossible de faire la volonté de Dieu. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que les désirs de la chair, on a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire que selon la chair, il ne nous est pas possible, il nous est pas permis de faire la volonté de Dieu. Seule la victoire de Jésus à Gethsémané nous donne la liberté et la possibilité maintenant de faire la volonté de Dieu. Ça nous est rendu possible non pas parce que nous pensons être dans l'onction, faudrait-il y être en permanence ? Que je doute, permettez-moi simplement, même si je ne vous connais pas trop, mais je doute que vous soyez 24 heures sur 24 dans l'onction. Si c'était le cas, on l'aurait su, on l'aurait vu depuis longtemps. Excusez-moi aussi. Mais donc, la réalité, c'est que nous tous, et moi avec, y compris, il nous est impossible de faire la volonté de Dieu. Elle est possible, elle est rendue possible pour nous, parce que maintenant nous croyons que Jésus a remporté le prix pour cela. Et ma foi dans le tout accompli, c'est-à-dire ce qu'il a accompli à Gethsémané, me donne réellement la possibilité de faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce qui change tout pour le croyant. Donc, première étape, première coupe, le sang a été versé pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Et ça nous est rendu possible. Quelle joie, quelle grâce. Jésus est emmené suite à son arrestation. Et là, il va être attaché à un poteau. Et puis, il va recevoir la sentence des coups de fouet. Pour votre information, c'est les Romains qui ont fouetter Jésus, ce n'est pas les religieux. C'est-à-dire que ce n'était pas une sentence juive, mais romaine. La sentence juive, on la connaît, au niveau des coups de fouet. La loi juive autorisait seulement à ce que le prisonnier soit fouetté 39 coups. Il n'y avait pas le 40e, parce qu'on estimait que le 40e donnait la mort. Donc, on ne voulait pas que le prisonnier meure, donc on lui donnait que 39 coups. Non, mais vous pouvez vous imaginer dans quel état il était. D'accord. D'autant plus que... Donc, on ne sait pas combien de coups de fouet Jésus a reçus. Autant, plus, moins, qu'importe. Mais on sait une chose, c'est que la manière dont les fouets romains étaient fabriqués, il y avait deux sortes de fouets. À vrai dire, il y en avait trois. Un n'est pas attribué comme un fouet, c'était plus ce qu'on peut appeler dans les pays du Sud une chicotte. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme un morceau de cuir tressé qui est assez long et qui, avec... L'extrémité est beaucoup plus fin que le bout que vous tenez. Et ça peut être fait soit selon les traditions, selon les pays, soit en cuir, soit en liane, en écorce d'arbre, ou encore des tresses donc de certains végétaux, où on tresse là pour faire ce qu'on appelle des chicottes. Et les Romains utilisaient cela avec du cuir. Donc ce n'était pas un fouet. Mais c'était parfois utilisé et on fouettait comme ça les prisonniers avec ces lanières de cuir. Si vous avez à peu près mon âge, vous avez peut-être connu autrefois les martinets. Alors, il y a plusieurs qui ont connu les martinets. Ok. Maintenant, ça n'existe plus. On ne sait plus si c'est un bien ou un mal, qu'importe ça, je vous laisse à votre jugement. Et puis... Moi, j'ai connu ça un petit peu, le martinet. Soit, avec le temps, on coupait de temps en temps une lanière, ça vous parle aussi, ou soit, en tout cas, on cachait le martinet pour qu'au moment de la sentence, la maman, le papa, ou du moins celui qui devait vous rappeler alors, ne trouvait pas le martinet. Donc, voilà. Mais le martinet n'est rien. Et puis, bien sûr, c'était avec modération. C'était plus pour impressionner que moi, j'ai jamais eu de marque de martinet sur les cuisses ou sur le dos. C'était simplement, j'allais dire, une arme de persuasion, quoi. Attention, le martinet. Ok. Mais là, il s'agissait pas de ça. Il s'agissait donc de ce morceau de cuir qui, là, par contre, lorsqu'il vous touchait le dos, vous lacérait en même temps la peau. Mais les fouets romains étaient constitués de deux manières. Il y en avait un où il y avait, c'était comme un martinet pour le coup, mais avec des extrémités d'os aux extrémités des lanières. Ce qui fait que quand le prisonnier recevait donc le coup de fouet, ces petits osselets là lui martelaient le dos. C'était le moins pire, celui-ci. Puisque l'autre était aussi constitué de la même manière avec des lanières, sauf qu'à l'extrémité des lanières, on y accrochait des petits morceaux métalliques repliés, ce qui fait que lorsqu'on frappait le prisonnier, les lanières entouraient le corps, et quand au moment le soldat ramenait le fouet, donc il lacérait, il déchirait entièrement le corps. Donc c'était soit avec les osselets ou soit avec les, probablement avec les morceaux de métal accrochés, puisque il nous est dit là que le dos de Jésus, le sang a coulé. Et c'est l'apôtre Pierre qui dit dans sa première épître que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris de toute maladie et de toute infirmité. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que le sang de Jésus nous enseigne dans le tout accompli, dans cette scène-là? C'est que Jésus a accepté, en son corps, de prendre sur lui nos maladies et nos infirmités. C'est en quelque sorte, je vais peut-être mieux préciser, il a accepté de prendre sur lui la maladie et l'infirmité, dans lequel se trouvent toutes les maladies et toutes les infirmités. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des maladies qui existaient à l'époque du Seigneur, et il y a des maladies qui n'existaient pas à l'époque du Seigneur. Il y a des maladies aujourd'hui qui n'existent plus, mais il y a d'autres maladies qui sont venues. C'est la raison pour laquelle il a pris la maladie sur lui, et l'infirmité dans laquelle se trouvent toutes les maladies et toutes les infirmités. C'est-à-dire que Jésus a pris en son corps, il a accepté. Vous savez qu'à tout moment, à tout instant, Jésus aurait pu se libérer de sa situation. À tout moment, les anges n'attendaient que cela. Simplement un regard de la part de Jésus, et les anges le libéraient, le délivraient. Mais il a accepté volontairement de prendre sur lui notre sentence, c'est-à-dire nos maladies, nos infirmités, pour que nous en soyons libérés. Et dans le tout accompli, j'allais dire, autant le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et là, ça laisse peu d'ambiguïté et peu de doute parmi nous, mais de la même manière, son propre sang, le même sang, a accompli par ses meurtrissures la guérison de nos corps. Et nous pouvons avoir la même foi que nous avons dans le pardon de nos péchés que dans la guérison. Et nous pouvons être guéris de toutes nos maladies et de toute infirmité, non pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres, mais simplement parce que nous avons foi dans le tout accompli de Jésus. Vous comprenez cela? C'est-à-dire qu'il serait inconcevable pour nous de croire que Jésus peut nous pardonner de tout péché et en même temps douter que ce même sang peut nous guérir de nos maladies. C'est la même foi que nous devons exercer. Ça va? Ok, on continue. La troisième étape, la troisième coupe par laquelle Jésus est passé, c'est que suite à cela, suite à avoir été fouetté, ils ont tressé une couronne d'épines, ils lui ont mis sur la tête, et avec des roseaux, ils lui frappaient la tête pour que la couronne rentre bien dans le crâne. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Est-ce que cela était utile? Il nous est dit dans Genèse 2, après la chute de l'homme, la malédiction a frappé la terre et, comme signe de malédiction, des ronces ont poussé. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Vous avez lu ça? Ok. Si vous n'avez pas lu, vous lirez Genèse 2. Juste après la chute, les ronces ont poussé à la surface du sol. C'est la raison pour laquelle Jésus a accepté qu'avec ces mêmes ronces, on fasse une couronne et qu'on lui mette sur la tête. Et c'est l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, qui nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction, afin que nous soyons sous la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire que notre malédiction, qui est suite à la chute, cette malédiction qui nous collait à la peau, qui nous collait à la vie, eh bien, Christ a porté, il a pris sur lui notre malédiction, ma malédiction, votre malédiction, il l'a pris sur lui pour que nous en soyons totalement, complètement délivrés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens, on a l'impression qu'ils ont toujours la poisse. Vous avez remarqué ça? En général, moi, je ne traîne pas trop avec ces gens-là parce qu'ils vous mettent en quelques minutes le moral, mais alors à zéro. Rien ne va dans leur vie. Rien. Absolument rien. Vous prenez n'importe quel domaine, ça ne va pas. Il y a des difficultés, il y a ceci, etc. Certains même doivent faire le constat que dans tel ou tel domaine de leur vie, leurs parents étaient aussi comme ça, victimes de ça. Et parfois même les grands-parents. Et puis certains ont rajouté des proverbes comme telle mère, telle fille, ou tel père, tel fils. Vous voyez, des choses qui se transmettent de génération à génération. Et parfois les mêmes problèmes se transmettent, c'est-à-dire les mêmes malédictions. Et les gens, même en tant que chrétiens, parfois doivent batailler avec ça, parce qu'ils ne veulent pas ressembler à leur père, à leur mère, ils ne veulent pas avoir les mêmes problèmes ancestraux, ou parfois simplement, eux-mêmes doivent constater que rien ne marche. Moi, je faisais partie de ces gens. Rien ne marchait. Quand je suis arrivé à l'âge de 20 ans, à la foi, je devais simplement constater qu'il m'était très difficile d'avoir une visibilité sur mon propre avenir parce que j'avais le sentiment, ce n'était pas qu'un sentiment, tout ce que je faisais, tout ce que je prenais, ça cassait. Pour moi, c'était inconcevable de pouvoir construire quoi que ce soit parce que dans tous les cas, ça n'allait pas marcher. Mais après, avec le temps, j'ai compris que j'avais besoin de me saisir dans la foi que je pouvais être béni. Tout simplement parce que Christ avait fait le nécessaire pour que je sois libéré de la malédiction et que maintenant j'ai la bénédiction. Okay, je vous donne un exemple concret si ça vous intéresse. Je ne développerai pas là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais souvent, cette malédiction passe d'une génération à l'autre. Elles peuvent diminuer ou s'amplifier parfois. Mais j'ai remarqué une chose. Je me suis retrouvé orphelin à l'âge de 8 ans. Ma mère est morte d'une mort violente et j'avais 8 ans. Et puis, ma mère avait 42 ans au moment où j'avais mes 8 ans. D'accord ? Les années ont passé et une de mes sœurs avait 42 ans lorsqu'elle est décédée, sa fille avait 8 ans. Et puis, les années ont passé et je suis arrivé, j'avais 42 ans et mon fils avait 8 ans. Alors, j'avais déjà cette connaissance-là de ce que je suis en train de vous enseigner. Donc, mais j'avais des pensées parfois qui passaient. Il me dit, je priais pour moi et je priais aussi pour mon fils. Et j'ai dû m'emparer de ce texte de Galates et j'ai dû proclamer que je n'étais plus sous la malédiction, mais j'étais sous la bénédiction d'Abraham. S'il y a quelqu'un qui a été béni dans l'Ancien Testament, c'est notre patriarche, Abraham, le père de la foi, qui me rappelait, qui me disait, qui proclamait dans mon esprit, « Non, tu es sous la bénédiction maintenant. Tu es sous la bénédiction maintenant. » Et on a pu passer cela. Ma fille a 40 ans aujourd'hui. Je ne l'emmène pas souvent parce que c'est une très belle fille. Et maintenant, elle est mariée, donc je n'ai plus besoin de la déplacer maintenant. Mais je l'avais ce matin au téléphone. Et je pense à elle en particulier parce que quand elle va avoir 42 ans, sa fille aura 8 ans. D'accord ? Donc, ce message-là, je peux maintenant, par rapport à ce message, voir les choses, même s'il y a des similitudes. Vous voyez, c'est bizarre, on fait les enfants toujours dans les mêmes années, puisque ça tombe toujours 42-8. Okay. Mais une chose est certaine, c'est que je peux voir, et elle peut voir l'avenir du bon côté. Pourquoi ? À cause du sang de Jésus qui a coulé, et maintenant nous ne sommes plus liés à ces choses, à ces malédictions du passé, mais nous pouvons réclamer et proclamer la seigneurie de Christ par son sang qui nous a libérés de toute malédiction. Pourquoi ? Parce que Jésus a accepté de prendre sur lui. Vous voyez, on n'y a pas mis la couronne dans la poche. On n'y a pas mis la couronne à ses pieds. On a mis la couronne sur sa tête pour vraiment qu'il porte sur lui notre malédiction. Ça veut dire que maintenant, nous pouvons aspirer à des jours heureux. Nous pouvons vraiment vivre dans la joie et la paix du Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous avons été libérés de la malédiction. C'est-à-dire que maintenant, cela nous est rendu possible de réussir dans la vie. Là où ça ne marchait pas, là où on était en échec, là où on n'arrivait pas à s'en sortir, là où on n'avait pas de visibilité, maintenant ces choses nous sont restituées. Pourquoi ? Grâce au sang de Jésus. Amen. Et cette coupe-là est très importante. Pour Israël, on ne peut pas s'imaginer. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient esclaves. 400 ans. Ça veut dire que de père en fils, de père en fils, de père en fils, on vous forme à l'idée que vous n'êtes qu'un esclave. C'est la raison pour laquelle il n'aurait été pas possible de sortir d'Égypte et rentrer dans le pays de la promesse. C'était simplement pas possible. Et ces 40 ans étaient absolument nécessaires. Parce qu'il devait sortir d'un état d'esclave à des hommes de foi libres. C'est simplement pas possible. Il y a une gymnastique intérieure que maintenant nous pouvons vivre dans le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit, mais eux ne pouvaient pas vivre cela. Donc cette coupe, pour eux, elle était importante de sortir de la malédiction de l'esclavage depuis 400 ans. Qui maintenant les rendait libres, c'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir eux-mêmes leur propre maison, leur propre lopin de terre, ils pouvaient circuler, se déplacer librement, ils pouvaient cultiver quelque chose et le vendre eux-mêmes, ils étaient libres. Pour nous, ce qui est important, c'est de bien comprendre que si la malédiction dans laquelle nous étions asservis, cette malédiction a été portée par Jésus et nous en sommes maintenant libérés. C'est possible d'être libre. C'est possible de réussir. C'est possible d'être heureux. On y a droit. On y a droit grâce au sang de Jésus. Imaginons un instant, personne ne douterait que Jésus a fait ça pour rien. Et ça n'a pas été fait pour rien, ça a été fait pour que simplement nous en soyons, j'allais dire, au bénéfice de cela. Donc, croyons-le de tout notre cœur et vivons comme Abraham. C'est possible. Vivons avec la même bénédiction d'Abraham. Il n'y a pas à être gêné, vous allez me dire, mais je suis encore pécheur. Oui, tu le seras, probablement jusqu'à la fin de ta vie. Mais justement, ça tombe bien. Que tu penses ça, parce que la quatrième coupe, celle que souvent, au moment où nous prenons la scène, nous évoquons, c'est là où Jésus a accepté d'être crucifié. Et son sang a coulé de ses mains et de ses pieds pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Il nous est dit dans l'Écriture, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Est-ce possible ? C'est possible. C'est possible d'être pardonné de tout péché et c'est souhaitable parce que s'il y a une chose qui nous séparait de Dieu, c'est notre péché. S'il reste du péché, il est difficile d'être en communion, en relation avec Dieu ici-bas et pour l'éternité. Mais grâce au sang de Jésus, nous avons été rendus purs, sans tache. C'est-à-dire, les petites choses comme les pires lesquelles nous avons été, eh bien, nous en sommes pardonnés. 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 Impossible de revoir nos péchés. Impossible de retrouver nos péchés. Nous avons été lavés de tout cela. D'accord ? Vous vous souvenez autrefois de la pub Homo, hein, pour la lessive, hein ? Il n'y avait plus de tâches du tout. D'accord ? Et même si on faisait des nœuds dans les torchons, eh bien, quand ils sortaient de la machine, tout était propre. C'était incroyable. Eh bien, le sang de Jésus nous rend plus encore qu'homo, d'accord ? Il nous lave totalement, nous sommes complètement pardonnés de tous nos péchés. Et si nous l'avons été, et si nous croyons que nous le sommes, nous devons aussi accepter de nous pardonner nous-mêmes de ce que nous avons fait ou peut-être pas fait. Parce que comment pouvons-nous retenir notre péché alors que Dieu lui-même nous a déjà pardonné. En plus, ça ne servira à rien, si ce n'est d'être dans la culpabilité ou l'autocondamnation. Donc, acceptons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et maintenant, nous pouvons être en relation avec Dieu, avec notre Père. Nous pouvons être en relation avec le ciel, maintenant et ici-bas. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous ne réalisons pas toujours. C'est possible, maintenant, grâce au sang de Jésus, de nous adresser à Dieu. Avant, ce n'était pas possible. Si vous avez parcouru un peu l'Ancien Testament, seul le souverain sacrificateur, une fois par an, osait rentrer dans la présence de Dieu. Puis encore, certains sont pas ressortis vivants. Donc, c'était simplement pas possible. Et maintenant, c'est possible. Grâce au sang de Jésus. La dernière chose, la dernière coupe, Jésus est pendu au bois et on accélérait la mort des crucifiés parce que finalement les crucifiés ne mourraient pas à cause du sang qui avait été versé, mais ils mourraient asphyxiés de la position de crucifié. Ce qui fait qu'ils s'appuyaient sur le socle en bois sur lequel ils étaient crucifiés, et pour reprendre leur respiration. Mais le temps faisant, et parfois ça prenait même plusieurs jours pour certains, eh bien, ils se relâchaient et ils mouraient comme ça, asphyxiés. Donc, pour accélérer la mort des crucifiés, les soldats prenaient des bâtons ou des barres en fer et ils brisaient les os des jambes, ce qui fait que le prisonnier, ne pouvant plus s'appuyer sur ses jambes brisées, mourait très vite asphyxié. C'est horrible. Et quand ils sont approchés de Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort. Donc, ils n'ont pas brisé les jambes. Mais un soldat a pris une lance, il a quand même néanmoins percé le côté, et il nous est dit que de l'eau et du sang est sorti. D'accord ? Est-ce que c'était nécessaire ? Oui, c'était nécessaire. Pourquoi ? Parce que si nous avons été pardonnés de tous nos péchés, la dernière chose qu'il nous fallait recevoir, C'était l'entrée au ciel. Et il nous est dit dans Hébreux que Jésus s'est présenté au ciel avec son propre sang comme souverain sacrificateur pour nous permettre, à nous qui maintenant mourons, puissent aller directement au ciel. Ça, c'est ce que les apôtres définissent comme l'espérance. Nous avons de l'espérance. Nous savons que notre vie ne s'arrête pas qu'ici-bas. Que ce passage-là, oui, un jour, nous allons peut-être fatiguer ou peut-être par d'autres circonstances nous éteindre ici-bas, mais notre destinée, elle est éternelle. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que nous savons où nous allons. Christ a vaincu définitivement la mort. Et maintenant, lui-même étant la vie et la résurrection, nous sommes, grâce à son sang, au bénéfice de la vie et de la résurrection. C'est la raison pour laquelle il dira, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. C'est-à-dire que la mort n'a plus de pouvoir sur toi et sur moi. Mais ça, je ne sais pas si ça vous arrive de méditer là-dessus, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que même si notre corps va dans un cercueil un temps et est mis en terre, finalement, on ne sera jamais ni dans le cercueil, ni dans la tombe. Autrefois, j'avais une hantise de ça. Je chopais des angoisses à savoir que je pouvais être dans une boîte à 3 mètres sous terre. Pour moi, c'était terrible. Mais j'ai compris en devenant chrétien que finalement, je ne serai jamais dans la boîte et jamais 3 mètres sous terre. Mon enveloppe, il sera, mais mon enveloppe, ce n'est pas moi. C'est l'enveloppe que j'ai et qu'on m'a attribuée simplement pour mon passage ici-bas. Mais avant tout, nous sommes esprit, âme et esprit. Et ça, vous ne le mettrez jamais dans la boîte. Jamais. Ça veut dire que on aura, d'après les témoignages que nous avons, nous aurons déjà une vision au moment de notre départ de cette enveloppe qui, elle, va rester. Eh bien, on s'en fout, quoi, de ce qui va devenir de cette enveloppe, bien qu'il ne faut pas la négliger. Je crois aussi à la résurrection de nos corps. Mais ma personne ne sera jamais enfermée dans une boîte. Jamais. De la même manière que certains ont pensé que c'était bon, on avait roulé la pierre, Jésus était enfermé dedans, et qu'on était débarrassé de lui. Et ça ne peut pas marcher avec Dieu, ça. C'est qu'effectivement, malgré la garde du sépulcre, une garde permanente du sépulcre, pour éviter les scandales, parce que certains pensaient que les disciples pouvaient venir voler le corps, puis après dire qu'il est ressuscité. Donc on avait gardé l'endroit où Jésus était dans le sépulcre. Mais malgré cela, la pierre a été roulée et Jésus en est sorti victorieux. Amen. Et c'est exactement de la même manière que nous-mêmes, nous ne serons jamais assujettis à la mort. Ça, en tout cas, au moins sur ce point-là, je me réjouis beaucoup. Dans le tout accompli, voilà ce que nous voyons. Donc, forcément, je vois la Pâque différemment. Forcément, quand je prends la scène, je la vois différemment. Parce que je ne prends pas la scène simplement par rapport à mes péchés, je prends la scène par rapport aux 5 points. Là, je te bénis, Dieu, de ce que maintenant je peux faire ta volonté. Je te bénis de ce que je suis en bonne santé et je peux réclamer la bonne santé sur ce corps. Seigneur, je te bénis de ce que maintenant je suis sous ta bénédiction. Et j'ai le droit à cette bénédiction. Et je vis cette bénédiction. Seigneur, je te bénis que je suis pardonné de tous mes péchés. Et Seigneur, je te rends grâce de ce que maintenant le ciel m'est ouvert. Amen. La mort n'est plus un problème. Puisque le ciel nous est maintenant ouvert grâce au sang de Jésus. Est-ce qu'on peut prier un instant sur ça? Et puis, la prochaine fois que vous prendrez la scène, entre vous, rappelez-vous de ces choses. Et puis, vous avez